Bonsoir, nous sommes donc sur la radio du Livre audio. Je reçois ce soir le docteur Olivier Kourisky. Alors, merci de votre temps et merci de cette possibilité donc de discuter sur la radio. Nous avons préparé quelques questions à débattre avec vous. Il y en aura 5 ou 6. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont surgir au fur et à mesure de la discussion. Voilà, nous pouvons commencer quand vous voulez. Alors, dans les questions, la première, avait été tirée d'un de vos derniers titres. Je précise, le docteur Kourisky est actuellement en retraite, mais il a été aussi un écrivain prolixe, puisqu'il a écrit 9 romans policiers. Et puis plus récemment, un livre, La médecine sans compter. Et je dois dire que ce livre, moi, m'a particulièrement intéressé et ému parce que je l'ai lu sur un lit d'hôpital. Et je dois dire que quand on lit un livre sur la médecine sur un lit d'hôpital, on a une vue un peu différente de celle où on peut la lire au fond de ce fauteuil ou au bord d'une plage quand on est en pleine forme. Voilà. Alors, ça amène d'ailleurs à la première question. La première question qui est tirée de votre livre, votre dernier livre, donc Médecine et psychologie. Pouvons-nous en parler un petit peu plus, la psychologie pour peut-être mieux comprendre le malade ou la psychologie pour définir un traitement plus adapté?
Je dirais les deux, mon général, c'est-à-dire qu'on reproche très très souvent aux médecins, et malheureusement parfois à juste titre, de ne s'occuper que du corps et pas de l'esprit. Mais je pense qu'il est absolument, surtout dans des maladies dont je m'occupe, qui sont des maladies rénales chroniques, il est absolument impossible de ne pas prendre en compte la psychologie des patients, parce que ça joue à la fois sur la façon dont ils vont participer à leur traitement, à leur maladie, etc., et même éventuellement sur les indications de traitement qui peuvent varier en fonction de la psychologie de l'individu. Un des reproches que je fais, enfin un peu à la tendance actuelle de la médecine, c'est que justement ça devient un petit peu protocolisé, et quand on a par exemple une annonce d'une maladie grave à faire, alors autant autrefois ça frisait le ridicule parce qu'on disait on va vous faire des rayons, mais c'est à visée anti-inflammatoire pour pas dire aux gens qu'ils avaient un cancer, autant maintenant, comme on leur dit la vérité, ce qui est bien, on assène à tout le monde la même vérité en disant voilà, vous avez un cancer, vous en avez pour 6 mois, au revoir. J'ai connu ça. Et je trouve que la noblesse et la difficulté de ce métier, c'est d'adapter le discours à la personne qu'on a en face de soi. Il y a des gens qui veulent tout savoir, il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir. Il faut arriver à déceler ça et adapter son discours à chacun. Donc c'est très important. Donc c'est totalement indispensable. Et si vous voulez, dans le service que je dirigeais, on avait d'ailleurs très très vite en dialyse travaillé avec un psychiatre et un psychologue ou un psychologue pour voir un petit peu, pour décrypter un petit peu les signaux qu'envoyaient les patients quand ils étaient en dialyse. Et je veux dire que le psychiatre intervenait tout aussi bien pour le personnel soignant que pour les malades, pour nous aider justement à mieux les prendre en charge. C'est tout à fait important.
C'est très intéressant, j'ignorais totalement cette approche avec un psychiatre et un psychologue. Moi-même, après mes opérations, j'ai eu droit à un psychologue. Ça m'a, je dirais, pour être honnête, que ça ne m'a pas apporté grand-chose parce que j'avais trop de réponses à donner peut-être au psychologue et j'étais peut-être pas un cas désespéré. Donc,
Mais ça peut sombrer dans le ridicule. J'ai raconté une anecdote dans le livre qui est en fourmi, mais qui est une histoire très triste, qui était un ami que j'aimais beaucoup, qui était le père d'une amie avocate en plus, qui s'est trouvé hospitalisé et le médecin est arrivé. C'est un type que je connais qui est tout à fait compétent mais un peu bourru. Et il lui a annoncé, effectivement, vous en avez pour quelques semaines, il y avait du cancer partout, au revoir, il part. Donc il était dans l'état que vous devinez, et quelques minutes après, enfin une dizaine de minutes après, il y a une jeune psychologue qui est arrivée, sémillante, en disant alors, on vous a annoncé une mauvaise nouvelle, comment vous prenez ça? Enfin, c'était absolument désastreux. Il se trouvait que j'étais pas loin de la clinique et sa fille m'a appelé en larmes au secours et je suis allé le voir. Et je lui ai dit, ce qui était d'ailleurs tout à fait exact, écoute, on peut jamais savoir comment ça va réagir au traitement, c'est évidemment très ennuyeux, mais je me suis assis au bord du lit, je lui ai pris la main et il était transformé. C'est-à-dire, j'avais rien fait de particulier, si ce n'est d'avoir un contact physique, d'être à côté, de l'écouter, d'essayer de lui parler de façon un peu plus humaine que ça avait été le cas, c'est tout.
Oui, j'imagine, on peut pas se mettre à la place d'un malade qu'on ne connaît pas, mais j'imagine effectivement qu'entre un contact humain, même très simple, et effectivement des mots comme ça qui tombent en disant vous en avez juste pour quelques semaines, c'est, pour le malade, ça doit être le jour et la nuit, quoi. C'est complètement différent.
Pour faire ce métier-là, si on ne veut pas être à l'écoute des gens, j'irai plus loin, si on n'aime pas les gens, il vaut mieux se destiner à la Banque de France, parce qu'on ne va ne voir que les inconvénients du métier, et du ça s'il y en a, être aigri complètement contre tout le monde, il faut avoir de l'élan vers les gens, de l'empathie, et je trouve quand on donne comme ça, on reçoit beaucoup. Évidemment, je suis un peu protégé parce que je suis dans le milieu hospitalier, donc pas généraliste, etc. Mais moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'on a toujours beaucoup de retours et beaucoup de bonheur avec les patients dont on s'occupe. C'est ma vision un peu idéaliste, peut-être.
Elle vous honore et je vous remercie. Donc, je crois que... vous avez répondu à la première question. On peut attaquer peut-être un deuxième, qui était donc un petit peu complexe.
Le partage d'expérience.
Le partage d'expérience, voilà.
Oui. Oui, alors le partage d'expérience, il se fait effectivement de plusieurs façons. Je pense qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le compagnonnage, qui est extrêmement important, et qui, lorsqu'on a des jeunes étudiants avec soi, ça consistait à leur faire des cours, à leur montrer un petit peu les pièges que l'on peut observer dans les diagnostics, etc., qui sont un peu les mêmes pour tout le monde, donc c'est forcément un peu... Mais il faut pour ça passer du temps avec eux. Moi, quand j'étais chef de clinique, j'avais des étudiants, j'avais la chance d'avoir un groupe d'étudiants pendant toute l'année. Et moi, j'ai tissé des liens d'amitié avec certains d'entre eux que je vois encore 40 ans plus tard. Mais c'était fantastique parce qu'ils étaient encore malléables, parce qu'ils étaient jeunes, et donc on pouvait leur apprendre à dire « vous frappez avant d'entrer, vous entrez, vous dites bonjour, vous dites je suis un tel, vous vous présentez aux patients, etc. » Et là, quand ils ont l'exemple sous les yeux, ils imitent. Et finalement, ils sont bien formés. Maintenant, le problème, c'est, je ne veux pas tomber dans le « c'était mieux avant », enfin, etc. Mais maintenant, le problème, c'est que les stages hospitaliers souvent durent 3 semaines, 4 semaines, donc ça s'apparente à une espèce de tourisme médical pour que les étudiants voient le plus de cas possible, et ce compagnonnage est un peu plus difficile à faire, mais ça continue à se faire un peu plus tard, évidemment, dans les services, soit de chirurgie, soit de médecine, en passant la visite, etc. Et puis, il y a une autre transmission d'expérience qui est évidemment lors des congrès ou des réunions scientifiques, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un congrès pendant 2 ou 3 jours, ou bien une journée, où il y a des communications et on aborde tel ou tel problème, et à ce moment-là, les gens discutent entre eux et font part de leur expérience, et c'est une autre façon de s'instruire.
Est-ce qu'il n'y a pas non plus quand même de plus en plus à l'initiative d'ailleurs de certains de vos collègues, des échanges d'informations sur un cas particulièrement difficile entre différents, dirons-nous, spécialistes, par exemple l'urologue, le néphrologue, le cardiologue.
Oui, absolument. Etc. Mais ça c'est heureusement déjà très. Ça devrait se passer toujours comme ça dans l'hôpital par téléphone ou en se déplaçant. Il y a aussi des échanges sur Internet. Notamment, il y a par exemple un groupe, je cite ce nom, Renalist, qui est un groupe de néphrologues qui se retrouve sur Internet, etc. Et très souvent, il y a un d'entre eux qui dit, voilà, j'ai un patient qui associe cela, est-ce que vous avez déjà vu ça, qu'est-ce que vous feriez? Et tout le monde répond, enfin ça c'est aussi un partage d'expérience extrêmement fructueux.
D'accord, oui, parce que j'en ai entendu parler auprès d'amis qui justement se faisait faire des analyses et disait, bon, bah, de toute façon, l'analyse, je n'aurai pas le résultat parce qu'elle part et elle va circuler auprès d'un ensemble de docteurs. Et j'avais trouvé cette idée géniale qu'effectivement, il n'y ait pas seulement une interprétation, mais qu'il y en ait une interprétation d'un groupe.
Oui, tout à fait. Alors, le risque, évidemment, aussi dans ces groupes, c'est qu'il y a maintenant, ce qui est tout à fait normal, des groupes de patients atteints de telle ou telle maladie, donc je pense aux maladies rénales, bien sûr, et c'est assez... en même temps, ça montre qu'ils ne sont pas toujours bien informés par les médecins, ou pas suffisamment, parce que souvent, ils disent, voilà, j'ai ça, j'ai de la fièvre, j'ai ceci, on m'a dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et ils demandent conseil aux autres patients. Vous imaginez bien que forcément les conseils sont plus ou moins justifiés parce que les gens connaissent pas le cas ou disent, ah ben moi j'ai eu ça, mais ça a été comme ça. Et c'est un peu, ça m'est arrivé d'entendre intervenir dans ces discussions de forums de patients pour dire, écoutez, attendez, reparlez-en à votre néphrologue, il faut aussi coincer les médecins pour les forcer à donner des explications précises sur tel ou tel point. Mais c'est vrai que ça peut être très utile, c'est parce que ces expériences de patients aussi, il y a qu'eux qui peuvent les partager. Donc quand ils ont des problèmes de prise en charge ou autre, ou de travail, de réhabilitation, ça peut être très important, mais il faut donc faire un peu attention aux informations qui circulent. C'est toujours le défaut d'Internet, c'est qu'il n'y a aucun contrôle et on peut faire circuler les informations parfois les plus fantaisistes.
Tout à fait. Je reviens sur ce problème de présentation auquel vous avez fait allusion tout à l'heure avec les jeunes étudiants, enfin donc stagiaires. Moi, j'ai admiré, par exemple, à la clinique où j'étais, que toutes les infirmières étaient concernées par ce sujet et qu'elles ne prenaient pas leur service auprès d'un patient qu'elles n'avaient pas encore vu, sans dire, voilà, je suis une telle, je m'occupe de vous maintenant pendant la journée ou cette nuit, etc. Et je dois dire que j'y étais très sensible parce que, effectivement, déjà le fait de se présenter, la personne qui est en face de vous, qui va vous faire mal peut-être simplement par une perfusion, c'est plus quelqu'un qui vous fait mal, c'est quelqu'un qui s'est déjà présenté, avec laquelle on a fait connaissance.
Ouais. Ah oui, mais je crois, heureusement, c'est de plus en plus répandu maintenant. Les gens, c'est vrai, ont pris l'habitude de prendre, quand ils prennent leur service, de se présenter aux patients en disant, voilà, c'est moi qui suis là cette nuit, etc. Moi, je suis passé de l'autre côté de la barrière aussi, ce qui a été extrêmement intéressant pour moi. C'est-à-dire que c'était pour des problèmes orthopédiques, donc c'était pas suffisamment grave pour que je ne garde pas ma capacité d'observation. Et ça m'a énormément instruit, parce que quand on passe de l'autre côté, moi, je faisais profil bas pour pas, à la limite, j'aurais bien dit que j'étais pas médecin, malheureusement il le savait déjà, mais c'est tout à fait intéressant de voir comment ça se passe et d'observer un peu les choses. C'est très 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 instructif. Ça m'a déjà, je faisais attention avant, mais je fais encore plus attention depuis que j'ai vu ça, parce que je continue à avoir une activité de consultation encore, et donc c'est tout à fait très très important. Je crois que dans ce métier, enfin pour moi, le secret, c'est comme dans beaucoup de choses, c'est de se mettre à la place des autres, de savoir se mettre à la place des autres et d'essayer d'imaginer comment on réagirait si on était à leur place. Ça, je crois que c'est très très important.
Tout à fait, d'accord. Alors, on revient peut-être un peu sur votre livre, et donc j'avais une question, moi, sur effectivement sur le thème lui-même. Peut-on véritablement ne pas compter? Je suis férocement opposé personnellement en tant que patient, mais aussi en tant que contribuable, au fait de vouloir trop compter. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même, on n'arrive pas à des moments où on se dit, ben, il faut quand même compter parce que justement, si on ne compte pas aujourd'hui un petit peu, on sera obligé de tout compter demain.
Oui, non, mais ça, l'AVC sans compter, c'est un jeu de mots, mais c'est surtout pour dire que c'est un métier de mon temps, quand j'étais en train d'exercer à temps plein, c'est un métier où on ne compte pas ses heures, surtout. Parce que c'est pas un métier comme un autre, malgré tout. Donc, on a, de temps en temps, on travaillait 12 heures par jour, on avait des gardes, on n'avait pas de repos de sécurité après, on était pris le week-end, mais on était heureux. Alors que maintenant, on compte surtout le temps. L'argent, il est absolument indispensable, bien sûr, d'évaluer les dépenses et d'essayer de faire la médecine la plus efficace possible avec le moins de dépenses excessives possible. Mais heureusement, en France, on n'a pas encore d'obligation de traiter ou de ne pas traiter suivant le prix que ça coûte. Parce que si vous faites allusion, par exemple, à la dialyse et la greffe, on sait qu'en principe, la greffe coûte moins cher. Mais comme on ne peut pas greffer tout le monde, évidemment, puisqu'il n'y a pas assez de reins et que les gens peuvent avoir une condition physique qui empêche la greffe, on va quand même les dialyser. En France, moi j'ai par exemple la dernière patiente que j'avais mise en dialyse la plus âgée avait 93 ans. Elle était en pleine forme. J'ai longuement hésité, j'ai demandé à la famille ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont dit, écoutez, voyez avec elle. Seulement, elle m'a tout de suite dit, on y va. Et on l'a dialysée pendant 4 ans. Et après, elle s'est éteinte tout doucement et toute sa famille m'a remercié parce qu'elle avait pu profiter encore de ses petits-enfants pendant 4 ans et dans des bonnes conditions. Donc, il y a des pays où c'est vrai encore, avoir une insuffisance rénale chronique est synonyme de mort parce que les pays n'ont pas les moyens de payer ces traitements. Il faut voir qu'une dialyse, c'est 80 000 euros par an et par patient et que les 68 dialysés et greffés représentent à eux seuls 2% du budget de la santé. Donc il est tout à fait normal que nos administrations aient un droit de regard pour essayer de limiter les dépenses, mais il ne faut pas non plus que ça devienne comme aux États-Unis, où on sait très bien que les résultats de la dialyse étaient plus mauvais qu'en Europe et au Japon, parce que le contrôle des dépenses de santé était trop important, parce que les doses d'érythropoïétine n'étaient pas suffisantes, etc., etc. Donc il faut faire très attention à garder la bonne ligne, sans tomber dans un sens ni dans l'autre. Mais le titre « La médecine sans compter » n'était pas un appel à dépenser sans compter, mais surtout à se dépenser sans compter.
D'accord, ben merci de cette précision qui ne m'étonne pas d'ailleurs, puisque quand on lit votre livre, on voit qu'effectivement, les heures ne sont pas décomptées. Et quand on a passé quelques journées à l'hôpital, on comprend très bien que effectivement. Les docteurs, et je le disais encore récemment, c'est pas un métier qui m'aurait enthousiasmé parce que c'est un métier trop dur. Je me serais pas jamais senti la force malgré effectivement la passion que je comprends qu'on peut avoir pour ce métier. J'aurais certainement pas eu la force, moi, d'affronter pendant 12 heures, voire 14 heures par jour, les problèmes identiques. Voilà, j'ai appris quelque chose, je pensais que c'était l'inverse, je pensais que la greffe était plus coûteuse que la dialyse, en fait.
Ah, pas du tout. En fait, la greffe, c'est-à-dire que la greffe, la première année, le prix d'une greffe est à peu près équivalent à celui d'une année de dialyse. Mais par contre, après, si la greffe marche bien, la surveillance d'un greffé, c'est seulement 15 à 20 000 euros par an, contre 80 000 pour la dialyse chaque année. Alors c'est vrai que c'est un peu à moduler parce qu'il y a des traitements maintenant anti-rejet qui coûtent de plus en plus cher et puis il y a des progrès aussi dans les traitements par dialyse. Enfin globalement, la greffe en principe réussit mieux et donne une meilleure qualité de vie que la dialyse, mais elle coûte moins cher. Donc tout est bon pour la favoriser. Par contre, ce qui me gêne beaucoup dans l'évolution actuelle, et ça c'est aussi stimulé par des associations de malades extrêmement agressives, c'est l'opposition que l'on fait entre la dialyse qui est présentée comme un enfer épouvantable et la greffe qui est représentée comme un miracle permanent où tout va bien, etc. La déification de la greffe. J'ai connu ça il y a 50 ans quand j'étais chez Rambourger où la dialyse et la greffe démarraient parce que la dialyse n'était pas ce qu'elle était maintenant. Effectivement, la seule chance du patient de pouvoir récupérer une certaine autonomie, c'était d'être greffé. Mais la dialyse a fait des progrès absolument incroyables. Ça reste extrêmement chronophage parce que ça prend 4 heures, 3 fois par semaine. C'est vrai que c'est très dur. On peut arriver à faire des séances de soir pour les gens qui travaillent. On peut faire de la dialyse à domicile avec certaines techniques. Enfin, ça n'arrête pas d'évoluer. Donc la greffe, c'est merveilleux quand ça marche, mais il y a aussi des inconvénients. On remplace une maladie par une autre, c'est pas une guérison, il faut des médicaments. Les médicaments ont bien sûr des effets secondaires. Donc je trouve que ce qui est idiot, c'est au lieu de se réjouir que dans cette maladie, il y a deux possibilités de traitement qui permettent aux patients de vivre, c'est-à-dire que quand la greffe rate, on peut repasser en dialyse et après greffer une deuxième, voire une troisième fois. Alors que si on a une greffe du cœur ou du poumon et que la greffe ne marche pas, on est mort. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. C'est mon esprit positif me pousse à me réjouir de ça au lieu d'opposer les deux, comme on le voit un peu trop dans les journaux, parce que vous savez comment c'est, quand on utilise un terme une fois puis deux fois, c'est répété comme des perroquets par tous les médias. Et maintenant, le terme consacré, c'est l'enfer de la dialyse. Il y a beaucoup à dire sur le traitement médiatique de l'information sur les prélèvements d'organes, sur la greffe, etc. Mais c'est un autre sujet.
On va passer à un sujet peut-être difficile et très personnel, mais enfin, je pense qu'il est difficile de l'éviter. Médecin et religion, les deux sont, si je puis dire, médecin. On peut dire, par exemple, que le médecin est le médecin du corps et le prêtre le médecin de l'âme. Est-ce que c'est un résumé ou est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la réflexion?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le prêtre, effectivement, ça peut être le médecin de l'âme. Mais ce qu'on a dit au début sur le rôle de la psychologie dans la médecine, c'est que le médecin est forcément amené aussi à se préoccuper de la psychologie, voire de l'âme du patient, et peut lui faire du bien à ce niveau-là. Donc, on leur reproche aussi très souvent de ne considérer que le corps. Quand j'étais au salon de Nancy ce week-end, je me suis agressé par une dame qui m'a dit « Pourquoi les médecins n'ont pas une vue holistique de la maladie ?» Et écoutez, madame, n'utilisez pas ce terme parce que ça me donne des crises urticaires. Tout ça, une vue globale, c'est beaucoup mieux que de dire que c'est souvent utilisé par des charlatans. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on peut, je crois que c'est important de soigner l'âme aussi, s'il faut, c'est-à-dire en étant prévenant, en étant empathique, en étant là, c'est tout à fait, on soigne aussi les gens de cette façon-là. C'est tout à fait, c'est même très important dans le traitement, que le moral soit bien traité. Et ça, c'est un peu le rôle du médecin. Il ne peut pas se décharger non plus de son rôle de médecin, ni sur un psychiatre en l'appelant au secours dès que le patient est déprimé, comme ça, lui n'a pas à s'en occuper. Je trouve que ça fait partie de son rôle. Ni le prêtre en disant, vous allez soigner là, mais moi, je m'occupe du corps. Je fais tout ça et complètement. Après, que les gens soient croyants ou pas, ils peuvent avoir recours au prêtre ou à l'imam ou au rabbin. Ça, c'est pas un problème.
D'accord. Bon, merci pour cette précision. Moi, j'ai quand même une autre question, puisque vous l'avez prononcé, le nom de ce grand professeur en Burger à une certaine époque. Je crois avoir lu dans votre livre que c'est lui qui avait donc lancé la greffe rénale. Est-ce que vous avez quelques anecdotes du professeur en Burger?
C'est là où je peux être qu'un bénéfice, c'est que j'ai eu la chance de effectivement connaître cette époque qui était les tout débuts de la néphrologie et qui est une révolution comme on n'en verra plus jamais, parce que il y a des progrès maintenant, mais il n'y aura pas ce progrès qui fait qu'avant tout le monde mourait d'insuffisance rénale et que là on commençait à soigner les gens. Donc en Burger, c'est lui qui a créé le terme néphrologie au congrès des Lyons en 1960, c'est lui qui a fait la première greffe en 59 conjointement avec en même temps que Boston aux États-Unis, et c'était quelque chose de fantastique. Il avait donc fait cette greffe de Marius Renard, cette tentative de greffe en 52. Je suis persuadé que ce serait aujourd'hui, tout le monde aurait terminé au tribunal. Et à cette époque-là, le professeur Leclinche, qui était directeur général de l'assistance publique, a au contraire débloqué des crédits pour faire un institut de recherche à Necker pour essayer de développer la transplantation, ce qui fut fait quelques années plus tard. Donc c'était une ambiance, c'était un homme, un manager absolument exceptionnel, d'une intelligence tout à fait aiguisée et qui sentait les choses très très bien. Donc c'était un véritable creuset intellectuel dans son service, c'était impressionnant. Il avait un humour féroce et c'était quelque chose de fantastique. Cela dit, après mon année à Necker, j'ai ensuite passé 11 ans chez Gabriel Richet, qui était son premier assistant, qui était lui qui avait aussi mis au point les premières artificielles Kolff Richet. C'était un personnage tout à fait différent et tout aussi attachant. C'était vrai que c'était... Mais alors, si je voulais une anecdote assez qui montre bien que rien n'est simple, c'est que le premier couple de donneurs-receveurs, qui étaient les frères Siméon que j'ai connus, En Bérger, à l'époque, il n'y avait ni psychologue, ni comité de l'art vivant, ni rien, bien sûr. Donc, il avait passé des heures à discuter avec les deux, avec le choix qu'on devine pour être certain du désir de don et de la sincérité du désir de don chez le frère. Et il avait donc greffé deux faux jumeaux. La greffe a réussi et 6 mois après, il ne se parlait plus. Parce que probablement, le receveur n'avait pas rempli sa part occulte du contrat. Donc ça montre bien que le bénévolat n'est pas toujours d'une limpidité absolue et que quand on veut développer la greffe de l'art vivant, il faut rester extrêmement vigilant parce qu'on voit les excès qu'il y a dans d'autres pays, y compris les États-Unis, par exemple.
D'accord. Ben, j'espère que... J'arrive pas à retrouver son nom, cet acteur français qui a reçu... qui a donné, je crois, son rein, un de ses reins... à sa fille ou à son fils, il y a de ça 2 ou 3 ans. J'espère qu'au moins ils continuent de se parler. Oui.
Ah oui, non, je pense que entre enfants, parents et enfants, c'est une des circonstances où on se pose le moins de questions. Mais ce qu'il faut faire, je veux dire, il faut rester vigilant. Il y a un comité de l'art vivant qui est chargé d'évaluer un peu la motivation et les problèmes. Ils sont au moins 5. Donc c'est quand même quelque chose qui fait très sérieusement. Mais une autre anecdote qui est vraie, que m'a raconté un ami, le frologue Gaïa, ça montre quand même aussi que rien n'est simple. C'est un jour où la mère voulait donner son rein à son fils. Et puis tout d'un coup, on y découvre une anomalie métabolique bizarre. On est obligé de l'hospitaliser. Elle reste 8 jours à l'hôpital. Et au 8e jour, elle fond en larmes. Et elle avoue qu'en fait, elle avait peur. Elle ne voulait plus donner son rein à son fils. Mais elle était tellement culpabilisée de cela qu'elle n'osait pas le dire. Elle s'était injectée des produits toxiques pour se rendre malade et qu'on lui trouve une contre-indication médicale. Vous voyez ?
Oh là là.
Donc il faut absolument que jusqu'au dernier moment la volonté du donneur soit respectée, qu'il n'y ait pas de culpabilisation, etc. Et même le droit de se. D'ailleurs, il y a quelques receveurs qui refusent que quelqu'un de la famille leur donne un. J'ai connu aussi ça. C'est pas toujours simple.
Non, j'imagine.
Mais en même temps, c'est vrai, c'est une preuve d'amour tout à fait remarquable et c'est très beau. Comme le don du rein entre époux, alors c'est souvent les femmes qui donnent parce que c'est les hommes qui sont plus souvent malades que les femmes. Mais là aussi, c'est merveilleux quand ça marche 80% des cas au moins. Mais si on tombe sur les 20%, c'est quand même un peu dur. Le rein rejeté très rapidement ou dans quelques mois, et donc on laisse donner son rein pour rien, c'est toujours un peu difficile. Moi, j'ai un patient et néanmoins ami que j'adore, qui était un jeune type complètement chien fou. Il a eu 3 greffes. La première a été de son frère. Il a fait n'importe quoi avec son traitement, puis elle a été rejetée. La deuxième a été de sa mère, et la troisième a été un rein de cadavre. Et là, maintenant, il fait très attention et ça se passe très bien. Et donc, c'est pas toujours du 100% garanti. Hein.
Eh bien, bah écoutez, j'espère que au moins cet entretien aura peut-être un mérite, c'est de parler à de futurs médecins et de leur faire comprendre que vous avez fait un métier superbe et avec beaucoup d'enthousiasme pendant de nombreuses années. Et je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Et on va retrouver donc régulièrement, à peu près une fois par semaine, une émission avec un extrait de votre livre. Voilà.
Entendu.